Merci d'avoir choisi la première, il est 7h48 et vous le savez, le comité de concertation hier a décidé de durcir les mesures déjà en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, mais sans passer par un reconfinement total, même si on s'en approche un peu en Wallonie. Certaines voix d'épidémiologistes ou d'infectiologues comme Marius Gilbert ou Leïla Belkir se sont élevées hier pour dénoncer des mesures insuffisantes et une nouvelle fois tirer la sonnette d'alarme. Alors ce matin, avec notre invité, nous allons nous demander si nous ne l'avons pas tiré un peu trop souvent cette sonnette d'alarme. Est-ce que c'est une bonne idée de jouer sur la peur pour faire appliquer des mesures? Est-ce que les citoyens ne risquent pas au bout d'un moment d'être anesthésiés à force de trop de coups de semonce ou bien au contraire de vivre avec un sentiment de peur permanent qui peut-être fera du mal à leur santé mentale? Est-ce qu'il y a des alternatives à la peur pour mobiliser contre le virus? Eh bien on en parle ce matin avec Olivier Luminet, directeur de recherche au FNRS, professeur de psychologie des émotions et de la santé à l'UC Louvain et à l'ULB. Bonjour Olivier Luminet.
Bonjour.
Alors pour qu'on sache bien de quoi on parle avec vous, dites-nous comment vous, dans votre domaine, vous définissez la peur. Est-ce que c'est une émotion ou bien est-ce que c'est un instinct? Est-ce que c'est les deux?
C'est une émotion, clairement. C'est ce qu'on appelle une des émotions de base, une des émotions fondamentales. Et une émotion très utile, elle permet d'identifier un danger dans l'environnement, et quand on identifie ce danger, ça nous permet de nous mettre à l'abri. Donc en tant que tel, quand on ressent une peur pour la première fois, c'est extrêmement fonctionnel parce que ça nous alerte d'une situation par rapport à laquelle il faut se protéger.
Alors il y a une fonction donc utile de la peur que vous nous dites, mais on se rend bien compte aussi qu'avoir trop peur, ça peut aussi nous faire du mal, on peut passer même dans l'angoisse. Alors où est-ce qu'on peut placer le curseur entre la bonne peur et la mauvaise peur ?
Donc en tout cas, je dirais une première peur en général est fonctionnelle, elle nous alerte donc d'un danger. Le problème, c'est quand la peur se maintient sur une longue période, ce qui peut se passer ici pour un certain nombre de personnes qui voient une peur qui dure, et là, alors à ce moment-là, elle peut devenir un petit peu moins bonne conseillère, parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on peut s'habituer en fait à ces signaux de danger, et certains vont considérer qu'ils sont de moins en moins pertinents, et ne plus changer leur comportement comme il l'avait fait, par exemple, au début de la pandémie. D'autres, au contraire, peuvent tomber dans un état permanent d'humeur liée à la peur. Et donc ça, c'est quand l'émotion en tant que telle se prolonge dans le temps et que les gens ne reviennent pas à un état normal, je dirais, de répit et d'apaisement. Et là, quand cette humeur est présente et constante, les gens commencent à tout percevoir de manière négative, ils commencent à porter des lunettes noires, de menaces permanentes. Et là, c'est l'autre extrême du curseur. Ce sont des gens, par exemple, qui ne vont plus sortir de chez eux, qui vont plus rien faire. Et ça, évidemment, c'est pas une bonne attitude. Et ça va être extrêmement néfaste à leur santé mentale sur le long terme.
Alors vous êtes en train de nous dire en fait que d'avoir peur tout le temps, quelles que soient les conséquences, finalement c'est pas du tout une bonne idée. Malheureusement en fait on n'a pas énormément de choix, en tout cas parfois on n'imagine pas très bien d'alternative pour essayer de sensibiliser les citoyens aux mesures d'hygiène, aux gestes barrières, à la situation qui est quand même alarmante. Est-ce que vous avez d'autres propositions à nous faire pour éviter de tout le temps jouer sur la peur? Est-ce qu'il y a des alternatives?
Alors il faut savoir que oui, jouer sur la peur, c'est quelque chose donc qui ne marche relativement bien, et je peux vous donner d'autres exemples dans d'autres domaines. Quand on voit par exemple toutes les campagnes qui ont été faites par rapport au tabagisme, par exemple, on essaie de jouer sur la peur, ça ne marche que relativement. On voit très bien qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens continuent à fumer, et donc ça montre qu'une partie des gens ne vont pas du tout être sensibles à cet élément-là. Alors un point sur lequel j'aimerais bien insister, parce que je pense qu'il est fondamental pour le moment, c'est l'aspect du groupe. On sait très bien pour le moment qu'une majorité des gens changent leur comportement, changent leur attitude, mais il reste encore des gens qui ne le font pas, et en grande partie, c'est dû au fait que dans ces groupes, c'est pas du tout considéré comme étant la chose à faire, ce que nous on va appeler comme psychologue la norme, de par exemple limiter ses contacts sociaux, parce que je pense que la clé pour le moment, c'est la limitation des contacts sociaux. Je pense qu'au niveau du lavage des mains par exemple, du port du masque, les gens ont assez bien intériorisé les choses, mais la limitation des contacts sociaux, ça reste extrêmement difficile pour un certain nombre de personnes, et en partie parce que ce sont des groupes dans lesquels il n'y a pas une norme par rapport au fait de limiter ses contacts. Il y a au contraire un encouragement à continuer à voir des gens tant qu'autour de vous, les gens ne changent pas de comportement, vous n'allez pas le faire non plus. Et donc là, c'est par exemple un moyen d'action qui serait extrêmement efficace.
Vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait qu'il y ait plus d'exemples, c'est-à-dire de membres de différentes communautés, soit culturelles, soit d'âge, mais en tout cas qui donnent des exemples, par exemple, enfin, ou des personnalités ou ce genre de choses ?
Absolument, ça me semble essentiel à ce stade-ci, par rapport justement à des groupes qui ne vont pas écouter la première tous les matins ou lire les journaux ou écouter les communications du monde politique. Ce sont des gens qui vont être beaucoup plus sensibles et beaucoup plus touchés par le fait que des messages sont envoyés par des gens qu'ils s'identifient, des gens qu'ils admirent particulièrement. Et si on sait que par exemple pour certains jeunes aujourd'hui c'est encore difficile de comprendre l'importance de changer leur comportement, avoir une figure connue, un sportif, un chanteur par exemple, qui leur dit « moi j'ai radicalement changé ma vie aujourd'hui et c'est important », c'est quelque chose auquel ils vont être nettement plus sensibles.
Alors est-ce que du coup vous rejoignez l'appel de Marius Gilbert hier qu'il a formulé sur les réseaux sociaux en s'adressant aux gens qui ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux justement, en leur disant « maintenant c'est à vous aussi de passer le message, c'est un peu à chacun autour de soi d'essayer de convaincre », est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité partagée entre plusieurs groupes de personnes. Il y a les politiques d'un côté qui vont dire certaines choses et qui vont avoir une certaine influence. Les scientifiques d'un autre côté qui vont avoir un autre type d'influence. Mais effectivement, les leaders d'opinion qui vont avoir une influence sur d'autres groupes de gens doivent absolument entrer dans le jeu maintenant et s'investir et s'engager parce que ils vont pouvoir toucher une frange de la population qui n'est pas touchée pour le moment.
Alors, on parlait évidemment de cette peur. Est-ce que vous trouvez que, on l'a dit hier hein, au comité de concertation, le mot bien-être mental, enfin en tout cas l'expression bien-être mental a été répétée plusieurs fois, préserver le bien-être mental des populations. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, tout est fait pour que ce bien-être mental soit respecté ou il y a encore des progrès ?
Il y a encore des progrès à faire. Je pense que justement, si on revient sur la peur, peut-être que les médias ont un rôle à jouer ici. Je pense que la communication permanente des chiffres à la hausse, des chiffres menaçants, ça crée un sentiment de peur dans une grande partie de la population. Il faut que les gens soient conscients de la situation, mais il ne faut pas qu'ils soient tout le temps focalisés sur cette peur. Donc je pense qu'une communication régulière, mais pas, je dirais, obsessionnelle de tous les chiffres, serait sans doute utile, tout en proposant des actions efficaces en aidant les gens, par exemple, à trouver des solutions efficaces par rapport aux problèmes de tous les jours que pose la situation, ce serait une bonne manière de faire. Il faut que la peur soit en arrière-fond, mais il ne faut pas qu'elle soit à l'avant-plan. Quand la peur est à l'avant-plan, elle est souvent mauvaise conseillère.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Luminet, pour votre vision sur l'utilisation de la peur et puis aussi vos conseils. C'était la semaine du journalisme constructif. On la poursuit avec vous. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au FNRS, professeur de psychologie des émotions de la santé à l'UC Louvain et à l'ULB. Merci à vous.
Merci beaucoup, au revoir.
Et on va poursuivre en musique avant de retrouver le journal de 8h avec James Vincent.